carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts vous emmène visiter le château de Nelly Jacquemart, le fameux domaine de Chaly dans l'Oise. Son hôtel particulier à Paris ainsi que Chaly ont été transformés en musée selon les vœux de la défunte propriétaire et légués à l'Institut de France. Alors avant de pénétrer dans les différentes pièces de cette ancienne abbaye transformée en château, revenons quelques siècles en arrière pour resituer l'histoire dans son contexte. Nous sommes en 1793, juste après la Révolution française, lorsque la petite abbaye cistercienne est vendue comme bien national. À cette période, plusieurs propriétaires se succèdent, Pierre-Étienne-Joseph Paris, Philippe Louis Armand, marquis de Labuffe. En 1850, le domaine est racheté par Madame de Vatry et c'est elle qui transforme définitivement l'abbaye en château. En 1902, il est de nouveau à vendre et c'est Nelly Jacquemart qui saute sur l'occasion. Alors la vie de Nelly Jacquemart est digne d'un conte de fées moderne. Loin d'être une riche roturière, ses parents travaillaient à l'origine pour les Vatry. Et considérée comme leur propre enfant, Nelly suit une scolarité digne des aristocrates, puisque les Vatry lui offrent des études aux Beaux-Arts, où elle apprend la peinture. Devenue portraitiste, elle rencontre son futur époux, le richissime banquier protestant Édouard André. Lorsqu'elle rachète la maison de son enfance, c'est un retour aux sources. C'est donc en 1902 qu'elle acquiert le domaine. À cette époque, Nelly Jacquemart est déjà veuve et voyage aux quatre coins du monde pour parfaire sa collection d'œuvres d'art qu'elle expose savamment dans son château. Sans plus tarder, poussons les portes de l'abbaye de Chaly. Le conservateur en chef du musée Jacquemart-André à Paris, Nicolas Sanfargarno, nous emmène découvrir l'univers de Nelly Jacquemart entre salon oriental, bibliothèque, salle du trésor ou encore salle de bain ultramoderne.
À chaque travée, dans les arcades qui ouvrent sur les pièces à main gauche, il était prévu à l'origine par Jean Aubert que l'on trouve à ses emplacements, la salle capitulaire, le réfectoire, etc. Enfin, c'est-à-dire toutes les fonctions associées à la vie et à l'activité du couvent. À l'étage, vous verrez tout à l'heure, on a exactement la même configuration, c'est-à-dire qu'on a, alors pour le coup, une galerie, et puis sur le côté, on a toutes les cellules des moines. C'est extraordinaire parce qu'il n'a pas fallu grands travaux à Madame de Vatry pour transformer ces cellules en chambres, non seulement pour sa famille, mais pour tous ses invités. Vous verrez, les cellules se présentaient de la façon suivante, 2,5 pièces, à savoir la porte d'accès, un couloir, et puis à main droite, un cabinet de toilette, et dans le fond, une ou deux pièces qui étaient l'alcôve avec le lit du moine, et par devant, une pièce qui pouvait servir de bureau, de lieu de méditation ou autre. Voilà ce que Jean Aubert avait prévu pour ces nouveaux bâtiments conventuels. Alors, quand tout ça est abandonné, je le répète, vous avez toute cette façade-là qui est ouverte, et en réalité, il y a, vous le verrez dans le guide du patrimoine, il y a un dessin qui montre l'état au début du XIXe siècle. Vous avez deux départs de bâtiments, parce qu'en fait, les retours de côté avaient été commencés. Donc, ça se présentait à l'état de murs à peine appareillés. Et donc, ces éléments-là vont être démolis. Et puis, on va rajouter de l'autre côté, la façade que nous avons parcourue avant de nous retourner pour entrer ici, on va rajouter les pavillons d'angle, c'est-à-dire doubler en épaisseur le bâtiment, de façon à ce que, notamment, on y installe les cages d'escalier. Donc, il y a deux cages d'escalier, une ici et une autre à l'autre bout. Et ça permettait une bonne activité de ce cloître devenu château à l'époque des Vatry. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, dans chaque alvéole, nous avons une pièce qui participe à la vie commune du château. Et donc, ici, vous avez cette salle à manger. Alors, vous voyez qu'à l'époque des Vatry, on a rajouté dans chaque pièce des lambris. Ce sont des lambris modernes. Et puis, on a rajouté un mobilier. Et ici, vous avez un mobilier qui est simplement un mobilier 19e siècle, sans qualité particulière. Autour, toute une série d'objets, de tableaux. Mais simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est le passage d'une fonction à une autre. Alors, on va revenir un moment à la galerie, puisque cette galerie, dans la logique d'un château, elle a parfaitement sa place. Mais si on regarde le premier exemple qui appartient à l'histoire de France, de galerie moderne, qui est celle du château de Fontainebleau, la galerie du château de Fontainebleau, ce n'est pas une galerie de passage, c'est comment dire, l'endroit secret du roi. Et je répète souvent, mais c'est la vérité, que François Ier portait, comment dire, au cou, la clé qui donnait accès à la galerie François Ier, celle où vous avez tout le décor de Rousseau et Primatis, où il y avait ses antiques, où il y avait les copies d'après les sculptures du Vatican, et tous les petits trésors comme la salière de Cellini qui a été volée et retrouvée, vous savez, à Vienne. Bon. Donc tous ces objets-là, ce sont des objets qui participent du cabinet de curiosité du roi, et ça n'est pas en accès libre. Pour que les choses soient encore plus évidentes, la galerie est une espèce d'appendice en bout de bâtiment. Donc ce n'est pas un endroit par lequel on passe pour aller à un autre endroit. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de cet exemple, s'est développé, en particulier en France, le système de la galerie, qui est souvent associé à une fonction ludique, comme le bal, ou alors associé à une fonction commémorative. Et dans les galeries, vous avez souvent les portraits des ancêtres. Donc, que ce soit peint ou sculpté, vous avez la série des bustes ou des portraits des ancêtres. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que on va recréer une galerie de bustes de part et d'autre, avec sur ce côté-ci des bustes de l'école française, essentiellement 18e siècle, représentant des personnalités de l'époque. Et de l'autre côté, vous avez soit les antiques, soit les marbres que Nelly Jacquemart a achetés en Italie et qui datent du 16e siècle. Donc il y a, en utilisant la grande tradition française, vous avez une adaptation des collections et du lieu à une fonction que et Madame de Vatry et Nelly Jacquemart ont voulu mettre en avant. Alors, puisque nous sommes là, je résume un petit peu aussi ce qu'on rencontre dans cette galerie, avec ces bustes montés sur gaines qui scandent sur chaque travée l'avancement dans cette galerie. Et vous avez sous les fenêtres, vous le voyez, toute une série de coffres. Alors ça, c'est pour donner du volume et puis aussi ne pas laisser cette galerie vide. Et sur les coffres, vous avez soit d'autres antiques qui sont présentés, soit des vitrines. Et dans les vitrines, vous voyez des objets absolument étonnants, qu'ils soient grecs, romains, mais vous allez découvrir un peu plus haut, des objets qui sont ottomans. Il y a de magnifiques morceaux de céramique d'Iznik. C'était probablement à l'époque, à la fin du 19e siècle, la plus belle collection d'Iznik qui existait en France. Il faut quand même le dire. Pourquoi ? Parce que Nelly Jacquemart, non contente d'avoir écumé toutes les régions d'Italie, va décider à la fin du 19e siècle d'élargir son périmètre d'intervention, de chasse, et elle va le faire le tour de la Méditerranée, Empire ottoman, Syrie, enfin ce qui correspond aux régions actuelles de la Syrie, du Liban, de l'Égypte. Et à chaque fois qu'elle passe, elle achète à tour de bras tout ce qu'elle rencontre. Alors on a des factures, c'est très rigolo. Il y a le Royal Luxor, c'est là où elle va, le meilleur hôtel de l'endroit où elle couche. Et puis vous avez associé à ça, vous avez trois factures des antiquaires du coin qui ont amené par charrette entière tous les vols qu'ils avaient faits dans la nuit précédente, dans les tombes royales. Et tout ça est rentré dans les collections Jacquemart-André. Et chaque fois qu'elle va quelque part, c'est la même chose. Donc voilà pourquoi vous avez cette espèce de collection invraisemblable. Et alors vous voyez qu'entre-temps, on devine les premières vitrines dans lesquelles il y a des reliures. Elle adorait les reliures. Elle n'aimait pas la lecture, mais les reliures, oui. Alors vous avez des ensembles de reliures formidables. C'est une des plus belles collections de reliures. On a retrouvé, on a fait l'inventaire des collections de reliures pour la collection à Paris. On a trouvé un exemplaire de Gouffier, qui était le libraire de François Ier. Enfin, les plus grands exemplaires de volumes manuscrits ou imprimés reliés par de grands amateurs, 16e, 17e, 18e siècle, tout ça est présent dans nos collections. Et ça dormait depuis longtemps, puisque personne ne les avait repérés. Donc là encore, c'est assez stupéfiant de voir que dans tous les domaines, où qu'elle soit passée, elle a toujours retenu des choses extraordinaires. Donc la salle à manger, j'avance, vous avez le grand salon, et là on va s'arrêter un instant parce que dans le grand salon, vous avez, alors grand salon qui est en même temps une bibliothèque, où vous avez quelques exemplaires de ces volumes que je vous signalais à l'instant, et vous avez surtout Dans le fond de la bibliothèque, vous avez trois éléments qui méritent d'être signalés. Les deux gaines sur lesquelles vous avez des bustes, malheureusement ce ne sont pas des originaux, puisque à droite on reconnaît le Grand Condé. Ces gaines, qui sont connues de longue date et attribuées à l'école, à l'atelier de Boulle, ont été identifiées par le spécialiste qui prépare le catalogue raisonné de l'œuvre d'André-Charles Boulle. Donc ces deux gaines ont été identifiées comme ayant fait partie du mobilier du Grand Dauphin à Versailles. Alors, jusqu'à présent, on croyait que c'était Meudon. Mais maintenant, la preuve est faite. On a passé des années à prendre des mesures très précises, conjuguées à l'étude des inventaires de Versailles et notamment de l'appartement du Grand Dauphin. On a maintenant la certitude que nous avons deux pièces de mobilier royal. Et puis, au milieu, vous avez une console. Ce n'est pas une commode puisqu'il n'y a pas de tiroir. C'est une console qui est faite dans le même atelier Boulle, mais un peu plus tardivement. Et si on fait le compte, alors c'est très intéressant aussi, et ça représente une découverte de ces derniers mois. On savait que Nelly Jacquemart avait très bien acheté en matière de tableaux et de sculptures, et on découvre qu'elle a aussi très bien acheté en matière de mobilier. Alors en réalité, je devrais plutôt dire que c'est son mari qui a bien acheté, et elle a continué à le faire. Mais c'est aussi important, puisque nos collections sont des collections qui sont ouvertes à la diversité, bien représentative du développement des arts en France, pas simplement les beaux-arts, mais aussi les arts décoratifs. Et vous comprenez bien que dans ce cloître, hein, puisque je reviens à la fonction première de l'endroit, il fallait bien des objets un peu, comment dire, imposants pour transformer cet endroit en château. Grâce à Nelly Jacquemart, c'est fait et c'est bien fait. Alors vous découvrez ici les petites statuettes antiques et autres que j'évoquais. Je vous ai dit que Nelly Jacquemart était une royaliste forcenée. En voilà un grand salon qui est entièrement consacré à la gloire de nos rois et toute une série de portraits de Louis XIV. Et vous avez aussi des paysages, des peintures de genre, à la fois paysages et tableaux de bataille qui sont faits par l'atelier des Martin et Van der Meulen, qui étaient les grands peintres spécialistes des batailles des armées du roi. Tous les grands salons qui se suivent. Et alors, il faut notamment souligner la présence au mur de quatre grands tableaux qui sont des portraits. Alors, il faut se souvenir qu'avant son mariage, Nelly Jacquemart était peintre portraitiste, qu'elle a rencontré Édouard André en faisant son portrait. Et elle a toujours privilégié, dans le genre peinture, les portraits. Alors, ce qui est très intéressant, après la mort de son mari, elle a été bouleversée et elle a passé 6 mois en Angleterre. Elle est revenue de son voyage en Angleterre avec 30 tableaux qui représentaient à l'époque la plus grande collection de peinture anglaise existant en France. Et ici, vous avez quelques exemples de tableaux qui ont été identifiés comme étant des peintres anglais très rares, à tel point que la collection anglaise est sur la base de données Joconde des musées nationaux, parce que c'est la plus grande qui existe en France. Elle avait décidé de faire le tour du monde et elle est arrivée donc en Birmanie. Aux Indes et en Birmanie, elle devait aller en Chine, de là passer au Japon, traverser le Pacifique, traverser les États-Unis et puis rentrer en France par l'Atlantique. Et c'est à ce moment-là qu'elle apprend la vente de chalits. Et elle rentre au plus vite en ayant dit à son intendant « achetez, achetez, achetez ». Bon, donc, alors, elle va rencontrer un maharaja et elle découvre la salle du trône avec un mobilier d'argent. Et de tradition, on croyait qu'elle avait réussi à convaincre le maharaja de lui céder son mobilier qu'elle a installé dans le fond de cette pièce. Et il y a 10 ans de cela, M. Bottier et son épouse ont refait le voyage de Nelly Jacquemart. Donc ils sont allés aux Indes et en Birmanie. Et ils ont rencontré le descendant du maharaja et qui les a reçus dans son palais. Et là, surprise, ils découvrent le mobilier, le même que celui qui est au fond de la salle. Alors, explication, en fait, bien entendu, le maharaja n'a jamais vendu son mobilier. Mais il avait accepté que Nelly Jacquemart en fasse faire une copie. Et depuis, on a retrouvé les factures, elle a reçu ce mobilier, et 5 ans plus tard, à Paris, elle a accueilli le Maharaja chez elle pour le remercier, lui-même à l'occasion d'un voyage qu'il faisait en Occident. Alors, vous voyez, c'est quand même très surprenant, parce que, bon, on veut bien admettre que, après tout, la Méditerranée a des prolongements, y compris dans les régions qui ont été tenues par l'Empire ottoman à une époque, mais aller aussi loin et ramener des choses aussi bizarres, extrêmement orientales. Bon, il faut un peu de fantaisie. Voilà, c'est tout Nelly Jacquemart. On s'arrête un instant ici devant cette vitrine que M. Gauthier avait organisée. Et il suffit simplement de me dire que vous avez ici quelques tissus coptes du 6e siècle de notre ère qui appartiennent à la collection Jacquemart André. C'est l'ensemble le plus important qui existe en France. Et là encore, ça fait partie des surprises de cette collection, puisqu'elle a acheté ça à l'occasion justement de l'un de ses 2 voyages en Égypte. Ce sont des objets extrêmement précieux, extrêmement rares, fragiles également. Il y en a au Louvre, naturellement, c'est logique. Il y en a aussi à Chali. Et vous avez en particulier cette tunique de moine qui est quelque chose d'assez étonnant. Alors, juste au passage, un petit souvenir sur les amis de Nelly Jacquemart. Nelly Jacquemart, donc cette petite fille élevée ici à Chali par Madame de Vatry, qui favorise son éducation. On a toujours trouvé ça bizarre, et les premières hypothèses qu'on avait avancées autrefois, c'était de croire qu'elle était la fille naturelle de Monsieur de Vatry. Mais en fait, on sait que c'est absolument pas le cas. Donc, si les Vatry ont favorisé la bonne éducation de cette petite fille, c'est qu'ils connaissaient son origine. Et comme on sait que les Vatry étaient eux-mêmes très proches de toute une série de familles importantes de la région, on peut penser qu'ils avaient agi ici sur la recommandation de quelqu'un qui appartenait à ce milieu. Que font-ils ? Bon, la première instruction, oui, et puis ensuite, les filles. Il faut se souvenir quel était le sort des filles naturelles au XIXe siècle. Elles devaient logiquement s'orienter dans 2 directions, soit le théâtre, soit le ballet. Et de toute façon, tout ça se terminait très mal. Hein. Je n'ai pas besoin d'insister sur la question. Donc, est-ce que c'est ça qu'on allait préparer pour l'avenir de Nelly Jacquemart ? Pas du tout. Les Vatry vont la pousser dans la seule direction qui soit honorable, à savoir les beaux-arts. Et donc, ils vont lui faire rencontrer Denis Hébert, le peintre dont ils étaient proches, et puis ses amis. Et c'est grâce à Hébert et les autres qu'elle va pouvoir faire l'apprentissage de la peinture. Elle va même pousser les choses très loin, puisqu'elle rentrera en atelier à l'école des beaux-arts. Elle présentera les concours, et puis qu'elle va commencer une carrière officielle en faisant des décors dans les églises de Paris, et puis en faisant les portraits des gens du monde. Et c'est ainsi qu'elle a rencontré Édouard André. Donc, ici, on a un petit souvenir de ses amis. Il y a Bida, il y a aussi un tableau de Nelly Jacquemart, quelques modèles. Et donc, ça nous permet de voir un petit peu les Léon Cogniet aussi, qui était quelqu'un qui l'appréciait beaucoup, ces artistes qu'elle avait fréquentés avant de rencontrer Édouard André. Alors, on va passer dans la chambre à coucher. Alors, vous voyez ici, ce qui est très étonnant, c'est de voir la cohérence de tout ce mobilier. Vous avez évidemment le lit, la table, les chaises, la coiffeuse, la commode, le fauteuil, mais également l'aigle, le buste en marbre, les candélabres, etc., etc. Donc on voit bien que tout ça appartient à un ensemble. Alors, ce qu'on savait de longue date, c'est que le lit, notamment, est estampillé Jacob d'Esmalter. Bon, ce qui n'est pas étonnant quand on voit le style de cette pièce de mobilier. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment ce lit est fabriqué avec son châssis de bois, bien sûr, avec des éléments décoratifs en bronze doré, c'est évident. Mais regardez ce piétement si singulier avec ces aigles aux ailes déployées, qui est un travail qui joue à la fois sur, comment dire, le bois et la sculpture. Donc, il y a là vraiment un élément qui marque bien un mobilier d'exception. Et c'est grâce aux recherches menées par M. Bottier qu'on a pu comprendre que ce sont des éléments du château datant de la période Murat, et que si la famille Murat avait laissé ce mobilier à la fin du XIXe siècle en place, bien entendu, c'est un mobilier qui avait été commandé par Joachim Murat en personne. Alors, je vous le répète, malheureusement, on ne sait pas exactement pour quelle résidence. Mais enfin, on a là un petit souvenir de la période impériale et qui est de très belle qualité. Alors, à propos de la chambre à coucher qui suit, il faut évoquer deux souvenirs. Premier souvenir, c'est le testament de Nelly Jacquemart qui dit qu'on n'a pas le droit de changer l'arrangement des collections. Et quand on voit la disposition de cette pièce, on se dit que c'était une curieuse personne. Car certes, il y a le lit dans lequel elle couchait, mais l'organisation même de cette chambre à coucher est quelque chose qui défie le bon sens. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est cette pièce qui est en réalité partagée en deux par l'intermédiaire de ces deux colonnes, qui sont des colonnes en bois. Alors vous voyez qu'en réalité, les colonnes répondent à des pilastres qui sont donc dans la continuité des lambris qui font le tour de la pièce. Et puis vous avez cette poutre, qui est une poutre qui sépare d'origine la pièce et qui est habillée ici de façon à devenir un élément de décor. Alors vous allez comprendre les choses. On a une lettre de Nelly Jacquemart à l'occasion d'un de ses nombreux voyages, qui demande à son secrétaire de suivre ses instructions. Et au dos de la lettre, elle a fait le plan de sa chambre à coucher et elle indique bien qu'elle veut qu'on installe en milieu de pièce ce système curieux de colonnes. Alors pour bien le faire comprendre, vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas un élément qui fait partie de la structure. Elle a dit, voilà, vous mettez des commodes Louis XVI avec tel type de décoration. On l'a commandé aux décorateurs de l'époque et puis on les a installés ici. Alors vous voyez, ce sont les fantaisies de Nelly Jacquemart. Et maintenant, on va découvrir la plus belle des fantaisies, qui est, son cabinet de toilette boudoir. Alors, voilà cette pièce dans laquelle, si on fait le compte de tout ce qu'on y découvre, la fenêtre donnant sur le parc, ici sur le côté, la belle cheminée avec manteau de marbre, en face, une alcôve, mais curieusement, il y a, une vasque en marbre, et puis des objets de toilette. Vous avez tout autour des fauteuils et autres, et puis vous avez ici, vous reconnaissez les baignoires telles que ça existait à l'époque. Donc vous avez ici cette partie mobile qui s'enlève et en dessous vous avez une baignoire en zinc donc dans laquelle Nelly Jacquemart pouvait se baigner. Au bas de la baignoire, vous avez donc ces deux chaussons ramenés d'un voyage dans un pays arabe, j'imagine. Et vous avez, alors c'est absolument extraordinaire, bien sûr, vous avez les deux becs. Autrement dit, vous avez eau chaude et eau froide. Et puis vous avez les trois boutons, grande lingerie, petite lingerie et office, avec l'électricité par conséquent. Et alors il ne faut pas oublier, ça aussi, ça fait partie des choses amusantes qu'on peut raconter à propos de Nelly Jacquemart. Le numéro 1 du téléphone départemental, c'est celui de Chaly. Et on vous a parlé depuis ce matin de toutes les distributions d'eau qui existent alentour. Elle avait fait monter un barrage, un moulin, avec une usine hydroélectrique. Si bien que le domaine produisait l'électricité dont tous les bâtiments et les services avaient besoin. Et donc, dès son installation, 1902-1905, elle apporte tous ces services modernes au domaine. Bien sûr, elle avait une voiture, une superbe Torpedo, et malheureusement, elle a été vendue en 1912 à sa mort. La quantité de choses qui ont été vendues, à Paris, il y avait 12 000 bouteilles de Mouton Lafitte. Vendu. Quelle honte. C'est ici que vous avez une partie de la collection italienne qui est présentée. Donc de part et d'autre, les tableaux comme le mobilier, les sculptures, les objets d'art. Et alors là, bon, je vous laisse avancer dans la galerie. Vous avez à chaque porte qui s'ouvre sur la droite, les anciennes cellules transformées en chambres d'hôtes. Et vous verrez que dans chacune de ces chambres d'hôtes, Nelly Jacquemart avait fait en sorte que le mobilier garde son unité. Donc vous avez des pièces meublées en Louis XV, Louis XVI, Empire, etc. Alors, bon, vous comprenez qu'ici, on est à l'origine dans une salle que Aubert avait souhaité affecter au service de la cuisine pour les moines. Bien sûr, ça n'a jamais servi pour eux. Et à partir du moment où le bâtiment devient château pour le compte de Madame de Vatry, elle va utiliser cette pièce, non pas exactement comme cuisine, mais comme salle de banquet. Et alors, si l'ornement que vous avez ici, c'est un cerf, c'est tout simplement parce que dans la sociabilité du XIXe siècle, et pour des milieux comme celui que fréquentait Madame de Vatry, et notamment dans cette région, la chasse était quelque chose de capital. Bon, je ne sais pas si vous avez vu que dans la galerie, de travée en travée, on avait des trophées de chasse, des pattes, ou autres, et il y en a partout, hein. Il y en a dans les combles des dizaines et des dizaines. Autrement dit, c'était une des activités essentielles du château que de recevoir les équipages en fin de chasse. Et donc c'est ici qu'on présentait les bêtes qui avaient été attrapées et tuées, et puis ensuite les invités festoyaient ensemble. Il y a des descriptions et des images de l'époque qui montrent ces grands banquets qui sont absolument extraordinaires. Alors, Nelly Jacquemart va transformer l'endroit, parce qu'elle n'a pas tellement l'usage de cette salle de banquet, en tout cas ici, elle va le transformer en salle du trésor. Et elle va mettre les choses les plus importantes qui se rattachent de près ou de loin à l'histoire des lieux, ou alors à ce qu'elle a collectionné. Vous avez dans cette petite vitrine les crosses de cannes d'abbé, ce ne sont pas des cannes d'évêques, des plusieurs abbés de Chali qui ont été retrouvés dans les fouilles. Ce sont des crosses médiévales vraiment de très très grande qualité. Et puis vous avez dans la vitrine du fond, vous avez à nouveau un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui viennent des fouilles faites sur Chali et qui se rattachent à l'histoire de Chali. Puis alors tout autour, vous avez des éléments que Nelly Jacquemart a, agglomérés et qui proviennent de ses voyages. Il y a un mobilier qui rappelle un peu, je dirais, l'ambiance médiévale et religieuse, mais les objets d'art, tous se rattachent à la culture italienne et donc au Quattro Cinquecento. Et puis, vous avez les deux Giotto qui sont placés ici. Voilà ces deux panneaux de l'école florentine du XVe siècle que Nelly Jacquemart a arraché à la Ventaro et que donc elle a gardé et qui ont tout de suite été identifiés. Alors on ne sait pas en réalité si ce polyptyque avait de part et d'autre deux ou quatre figures de saints, parce qu'il y a d'autres autels à Santa Croce qui montrent des polyptiques avec de part et d'autre quatre figures de saints. Donc on ne sait pas s'il est complet ici, mais en tout cas on a tous ces éléments qui ont été identifiés. les études sur Giotto ont beaucoup progressé depuis le tremblement de terre et toutes les restaurations d'assises. Et donc maintenant, on considère qu'on situe ces deux œuvres autour de 1310-1315, dans ce qu'on pourrait appeler la période de grand classicisme de Giotto. Et ici, ce qu'il faut souligner, c'est à la fois la monumentalité des personnages, le travail de peinture, parce que nous sommes, je le répète, en 1310. Et le travail qui consiste à utiliser ici des demi-tons plus clairs pour donner le relief ou la lumière portée sur les étoffes est quelque chose qui n'existait pas avant. Et que Giotto a réfléchi et ensuite su mettre en œuvre pour arriver à ce genre de résultat. De la même façon, ces ombres qui entourent les visages, qui donnent la profondeur et le relief, sont des choses qui, pour la figure humaine, sont censées représenter les mêmes préoccupations que celles qu'on fait pour la troisième dimension et pour lesquelles Giotto est le premier à imaginer des mises en profondeur d'architecture. Jusqu'alors, toutes les architectures qui sont représentées sur des tableaux sont des architectures plates. Alors, il ne faut pas croire que les peintres n'étaient pas capables de le faire, mais la préoccupation première n'était pas ce genre de représentation. Et Giotto, pour répondre à des données qui lui sont propres, mais aussi à des données qui appartiennent à son temps, va mettre au point cette nouvelle peinture. En ce sens, on peut véritablement dire qu'il est à l'origine de la peinture moderne. Donc voilà, la Fondation de Chaly a l'extrême chance et le privilège de pouvoir présenter deux Giotto. Et vous avez tout autour ces éléments de mobilier et autres étonnants qui donc rappellent là encore ce goût que Nelly Jacquemart avait à reconstituer des ensembles mobiliers et à les remettre en place.
Et c'est dans cette salle du trésor où sont conservés deux magnifiques Giotto que notre visite se termine, visite menée par Nicolas Sainte-Fargarno, conservateur en chef du musée Nelly Jacquemart à Paris. Pour en savoir plus sur le domaine de Chaly dans l'Oise, fondation de l'Institut de France, connectez-vous au www.institut-de-france.fr. Et puis nous vous invitons bien sûr à poursuivre la visite du domaine avec Jean-Pierre Bablon, président de la Fondation Jacquemart-André, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au cœur de la petite chapelle restée sur pied, et nous fait la lecture des fresques de Primatis tapissant l'intérieur de l'édifice, une émission Carrefour des Arts sur Canal Académie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.